Merci, Madame Marzloff, de cette invitation. Je m'appelle Roland Ménégus, je suis professeur de musique titulaire du CAPES. Dans l'Académie de Dijon, je suis actuellement en disponibilité pour me consacrer à la direction de chœur. Et c'est en cette qualité que Madame Marzloff m'a demandé d'intervenir, c'est-à-dire en qualité de chef de chœur. En ce qui concerne notre thématique qui est la parole collective dans la musique, l'idée du chœur apparaît en premier lieu, même si un soliste peut aussi porter une parole collective, bien sûr. Mais pour ma part, je vais donc traiter de la question du chœur. Et lorsque je dis chœur, vous voyez sur l'écran derrière moi qu'il y a aussi un autre terme qui est celui de la chorale. Je dirige, j'ai dit que j'étais chef de chœur, mais je peux décrire plus mon activité comme aussi chef de chorale. Je dirige deux chœurs et je dirige deux chorales. Alors, quelles sont les distinctions que l'on peut établir entre ces deux mots? Ce sont des distinctions qui sont extrêmement sensibles. C'est-à-dire que si un imprimeur indiquait sur une affiche concert Requiem de Mozart, chorale de Lyon dirigée par Monsieur Tétu, vous comprenez bien que ça ne serait pas accepté. Ou bien moi qui suis en Bourgogne, la chorale Arcis, qui est l'ensemble professionnel, qui est la vitrine culturelle et vocale de la région Bourgogne, ne pourrait pas accepter d'être appelée chorale Arcis. Ce sont des distinctions qui sont très sensibles et que l'on a du mal à définir. Donc j'y reviendrai à la fin de ce petit exposé et peut-être que nous pourrons ensemble élaborer une définition de ce que c'est qu'un chœur, une définition de ce que c'est qu'une chorale. Je vais essayer d'éclairer ces questions, mais je n'ai pas du tout la prétention d'avoir les réponses. Pour définir un chœur, Il est nécessaire d'aller à la source de ce mot qui est le chœur antique. Ensuite, je prendrai quelques exemples de chœurs d'opéra. Et enfin, je vous indiquerai le répertoire d'une chorale ordinaire que je dirige. Et nous parcourrons tout ce répertoire pour identifier la parole collective qui se dégage. Et ensuite, nous reviendrons à nos définitions d'un chœur et d'une chorale. Le chœur antique, c'est vraiment la source. C'est-à-dire que le chœur préexiste à l'existence même de la tragédie, c'est-à-dire avant l'apparition des personnages et des solistes, la pratique du chœur existe. Je peux vous renvoyer sur ce sujet à un article qui se trouve en ligne de Madame Christabel Graar, qui est la collègue de certains d'entre vous, puisque je crois qu'il y a des inspecteurs d'académie, il me semble, parmi vous. Alors, son article se trouve en ligne sur le site de l'Académie d'Aix-Marseille. Il est intitulé « Le chœur dans la tragédie grecque ». Vous savez que ce chœur, il est placé sur l'orchestra. Il est donc au premier plan, mais par rapport à l'auditeur, mais c'est un plan qui est inférieur par rapport à celui de la scène. Les choristes, avec un vocabulaire plus antique, sont appelés les choreutes, interviennent à tour de rôle avec les acteurs. Et ce chœur et l'interaction avec les personnages constituent l'essentiel de la tragédie. Un exemple dans une tragédie de Sophocle, Œdipe Roi, Mon âme, tendue par l'angoisse, est là qui palpite d'effroi. Cette parole, c'est celle du cœur. Donc vous voyez que c'est une parole collective, mais c'est une parole aussi intime. Dieu qu'on évoque avec des cris aigus, Dieu guérisseur, quand je pense à toi, je tremble. Que vas-tu exiger de nous ? Une obligation nouvelle ou une obligation omise à renouveler au cours des années ? Dis-le-moi, parole éternelle, fille de l'éclatante espérance. Dans cet exemple, le cœur exprime les croyances, les craintes. Plus loin, je souffre des maux sans nombre. Tout mon peuple est en proie au fléau. Ma pensée ne possède pas d'armes qui nous permettent une défense. Et ensuite, en parlant d'Œdipe, sans doute Œdipe me trouble étrangement. Je ne puis le croire ni le démentir. Que dire ? Je ne sais. Ici, le cœur est devant un choix. Donc, il exprime ce choix qui est aussi celui de l'auditeur qui doit prendre parti pour ou contre Œdipe. Cependant, ce choix sera sans effet sur le déroulement de l'action. C'est-à-dire que ce spectateur qui est dit spectateur idéal, le cœur, est impuissant dans l'action. C'est le rôle du cœur antique. D'une façon générale, toutes ces interventions constituent ce que Christian Meyer, ou bien qui emprunte ce vocabulaire à Max Weber, il s'agit du savoir nomologique, c'est-à-dire un ensemble d'opinions sur le cosmos, la nature, des représentations de la nécessité du hasard, ce qui est permis, ce qui est défendu. Je pense que ceci sont des choses que beaucoup d'entre vous connaissent bien. Non, je n'ai pas vraiment d'approbation. Vous me direz vous me direz ça tout à l'heure. Ou alors, autre définition, le cœur est un personnage collectif que le statut de spectateur passif rend impuissant. C'est un personnage collectif qui est incarné par souvent des vieillards, c'est-à-dire des personnes qui peuvent représenter et divulguer la sagesse, mais qui n'ont pas le pouvoir de l'action. On sait l'importance de la culture antique dans la création de l'opéra moderne. Et nous allons voir avec quelques exemples ce qu'il en est du cœur d'opéra à partir de sa création moderne, c'est-à-dire à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle. Par exemple, dans un opéra de Monteverdi, l'Orfeo, en 1607. Le cœur, ou plutôt les cœurs, sont des cœurs de nymphes, des cœurs de pasteurs et aussi des cœurs d'esprit. Que nul ici ne s'abandonne à la douleur, au désespoir, même si quelquefois leurs assauts sont si forts qu'ils gâchent notre vie. Ou bien, implacable et funeste destin, fatales étoiles, impitoyable ciel, qu'aucun mortel ne s'abandonne à un bonheur éphémère et fragile, car bientôt ce bonheur s'enfuit, et même, bien souvent, plus haut est le sommet, plus le ravin est proche. Ici, les nymphes et les bergers énoncent une vérité et une conclusion qui peut relever de ce savoir nomologique qui était présent dans le cœur antique. Le cœur des esprits a un rôle explicatif et il exprime aussi une sagesse supérieure. Et c'est au cœur qui est confiée la conclusion de l'opéra. Orphée vainquit l'enfer, puis fut vaincu par ses passions. Seul sera digne d'une gloire éternelle celui qui triomphera de lui-même. Et enfin, ainsi va celui qui ne se dérobe pas à l'appel d'un Dieu éternel. Il obtient grâce dans le ciel, qui ici-bas connut l'enfer, et qui sème dans la souffrance, cueille le fruit de toute grâce. Vous voyez qu'on retrouve quelque chose du cœur antique dans ces paroles. Cependant, la situation du cœur a changé, puisqu'il n'occupe plus l'orchestre, mais il est sur la scène. Et de ce fait, la relation entre le cœur et l'auditeur me paraît comme amputée d'une fonction d'identification qui était si forte dans le cœur antique. Donc ce cœur moderne, ce cœur d'opéra moderne, il conserve quelque chose de ce savoir nomologique, mais il n'a plus une relation aussi forte d'identification avec l'auditeur, avec le spectateur. En revanche, il a un rôle d'intermède, divertissant. Ce sont souvent des chœurs dansés. Et ces intermèdes ont un lien avec l'action principale. Mais c'est parfois un travers qui est déjà dénoncé dans la tragédie antique, dénoncé par Aristote, qui est que ces chœurs qui servent d'intermède expriment souvent, viennent au premier plan et nuisent à l'action principale. C'est ce que Aristote reproche à une sorte de dégénérescence de la tragédie, et c'est une fonction que l'on retrouve dans l'opéra baroque où des chœurs interviennent et nous distraient de l'action principale. Si le chœur est sur la scène, qui occupe l'orchestre? Vous avez la réponse dans la phrase. Le développement de la musique instrumentale confère aux instruments ce rôle laissé par le chœur. C'est-à-dire que les instruments nous disent ce qu'il faut penser et surtout ce qu'il faut ressentir. C'était un exemple d'opéra italien, Monteverdi. Henry Purcell, au XVIIe siècle, Didon est né. Les chœurs ont un rôle pittoresque, chœur de sorcière, chœur de marin. Cependant, leur parole est en rapport avec l'action principale. Partons, amis marins, levons l'ancre, le temps et la marée n'admettent aucun délai. Buvez un coup, dites rapidement adieu à vos belles sur la rive et faites taire leurs lamentations par des promesses de retour. Mais sans jamais songer à les revoir, sans jamais songer à les revoir. Ce que disent les marins en chœur, eh bien c'est la transposition par leur classe sociale, je dirais, de la situation d'aîné, que aîné lui-même va développer. Donc ça peut paraître comme un intermède chanté, mais cet intermède, il est en relation avec l'action principale, même si cet intermède n'a aucune influence sur l'action principale. Chœur de serviteur de Didon, c'est un chœur qui exprime là aussi des vérités supérieures. When monarchs unite, how happy their state. They triumph at once over their foes and their fate. Lorsque les monarques s'entendent, combien heureux est leur état. Ils triomphent sans délai de leurs ennemis et de leur destin. Ou bien, les grands esprits contre eux-mêmes conspirent et ils fuient les remèdes qu'ils désirent le plus. Et c'est à nouveau au cœur que revient la parole finale de l'opéra, c'est-à-dire « Avec vos ailes repliées, venez Cupidon et répandez sur sa tombe des roses. Comme son cœur, regardez là avec tendresse et délicatesse et jamais ne vous en éloignez. » Ensuite, les sujets d'opéra vont avoir tendance à se rapprocher de la contemporanéité de façon asymptotique. dans l'opéra classique, chez Mozart, les chœurs ont un rôle extrêmement réduit, chœurs de paysans. Ce sont des scènes de fête qui sont tout à fait accessoires et qui n'ont même plus de vertu explicative ou narrative. C'est vraiment très, très accessoire dans Don Giovanni en particulier. Et cette asymptote qui tend vers la contemporanéité, elle rejoint au milieu du 19e siècle, en 1850, Verdi souhaite que l'opéra La Traviata ait lieu dans des costumes contemporains, 1850. Et la Traviata est un opéra qui est représenté en 1853. Cependant, cette absence de distance historique va rencontrer une grande résistance, puisque ce n'est qu'en 1906 que les directeurs de théâtre vont accepter que cet opéra soit joué dans des costumes, dans des décors contemporains. Alors qu'en est-il des chœurs pour cet opéra, La Traviata, ou un autre opéra du 19e siècle que vous connaissez bien, Carmen? Eh bien, il y a des chœurs qui sont importants par leur traitement musical, mais qui n'interviennent pas dans l'action et qui finalement nous représentent qu'eux-mêmes en tant que groupe social. Les cigarières ou les cigarettières dans Carmen ne délivrent aucune vérité supérieure et ne jouent pas ce rôle d'interface entre l'auditeur, le spectateur et puis l'action ou une entité supérieure. Finalement, leur discours ne représente qu'elles-mêmes en tant que groupe social. Et ça sera la tendance de l'opéra au XXe siècle. J'en viens à maintenant le cas d'une chorale. Je vous propose le programme du prochain concert d'une chorale que je dirige, voilà, qui est composé de chansons. Alors, par rapport au chœur antique ou au chœur d'opéra, comment qualifier cette parole, dont la première est une chanson de Serge Gainsbourg. Écoute-moi, toi qui te crois seul au monde, tout seul, abandonné. Faut trois fois rien pour entrer dans la ronde de tous les mal-aimés. Suspends un violon, un jambon à ta porte, et tu verras appliquer les copains tous tes soucis que le diable les emporte jusqu'à demain. Comment qualifier cette parole ? Par rapport à un chœur antique, un chœur d'opéra. Eh bien oui, il faut que vous travailliez un petit peu maintenant. Alors, concentrez-vous sur la première phrase. Écoute-moi, toi qui te crois seul au monde. Comment qualifier cette parole ? Où est-ce que, comment on se situe par rapport à celui qui nous entend ? Je ne veux pas vous laisser dans l'embarras, hein, mais oui, il y a une invitation, oui. C'est un dialogue entre deux personnes qui sont proches, et cette proximité, c'est celle d'un ami qui veut conseiller à un autre ami. Donc moi, je qualifierais ceci d'une parole amicale. Vous voyez, ça vous va ? Allez. Vous avez bien compris que ça m'arrange que vous disiez oui. Voilà. Alors, voici une parole amicale. Ensuite, il est un jardin dans un cœur oublié, la fleur du pommier au soleil a perlé. L'oiseau dans le nid a posé un secret, le cœur s'est ouvert, le jardin s'est éveillé. Et le temps d'une fleur, un instant de bonheur, s'est ouvert dans le cœur, mais la vie s'étire. Mais le temps d'une fleur, un instant de bonheur, ainsi va le chemin de vie. Alors, je vous écoute. Voilà, on va pas s'adresser comme ça à un ami. Hein, c'est pas du tout le même registre. Moi, j'appellerais tout simplement ça une parole poétique. Bon, oui, c'est. Oui, ça vous fait penser. Oui, oui. D'accord. Ok, je retiens. J'y avais pas pensé. D'accord. En tout cas, une parole poétique. Ensuite, quel est donc ce pas de danse qui par magie nous entraîne? Rendons-nous à l'évidence, ça ne sert à rien qu'on freine. Cessons toute résistance pour danser à perdre haleine. Il faut garder la cadence pour ne pas briser la chaîne.
Pourquoi t'as pas fait la dernière phrase?
Ah oui, c'est le galop, ce galop est infernal. C'est le galop, mais il est original, etc. Donc vous reconnaissez, c'est un arrangement de French Cancan de d'Offenbach, sur lequel ont été mis des paroles. Alors, il ne s'agit pas d'une parole poétique, il ne s'agit pas d'une parole amicale. C'est entraînant. Ça, c'est la vertu de la musique. C'est festive. Bah, j'ai pas réussi l'effet, mais en fait, c'est une parole qui me paraît comique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est entraîné dans une danse qui nous dépasse et qui est irrésistible. Donc, c'est une parole, plus précisément, burlesque, il me semble. Merci d'accepter.
Enfin, elle est peut-être pour nous, mais peut-être qu'elle n'était pas sous le bac.
Alors, attendez, là, les paroles sont très récentes. Hein. Voilà, donc oui. C'est très récent comme parole. La musique, donc vous voyez, c'est 1866. Alors autre chose, parole burlesque, oui, Martine.
C'est quand même...
Oui, donc. Ce qui m'intéresse, oui, je retiens, hein, j'entends bien. On est dans une situation qui n'est pas du tout commune, qui n'est pas ordinaire, et c'est justement ça quand je fais chanter ceci. C'est qu'on se place dans une situation qui est comique. C'est-à-dire que devant moi, en principe, les gens devraient provoquer une sorte de mouvement qui est irrépressible et qui les emporte et qui est quelque chose de comique. Pour moi, c'est ça, le burlesque. Bon. Mais avec cet imaginaire, peut-être, hein, dont vous parliez. Poursuivons. Je connais des bateaux qui restent dans le port, de peur que le courant les entraîne trop fort. Je connais des bateaux qui rouillent dans le port, à ne jamais risquer une voile au dehors. Bon, c'est pas comique, c'est pas une parole amicale. Est-ce que c'est une parole poétique? Oui, dans la mesure où c'est une parole métaphorique. Donc c'est la métaphore des bateaux qui vieillissent et métaphore des couples qui vieillissent eux aussi. Donc c'est une parole métaphorique, que dire d'autre? Alors, oui, alors il faudrait que je vous chante la fin, parce que la fin est assez lyrique. Donc c'est mélancolique, mais en même temps c'est lyrique. C'est vrai que là, ça dépend comment vieillissent les couples, si vous voulez. Hein. Donc, mais après, Manique nous propose une issue lyrique, voilà, du vieillir ensemble. Donc, mais si vous voulez, c'est mélancolique, oui, d'accord.
Tendance à ne que.
Ah, peut-être pas. Et plus loin, moi, je peux me permettre de rajouter lyrique. Quand la nuit meurt pour donner la vie au jour, quand le bleu du ciel revient pour faire un tour, chaque étoile emporte un peu de nos chagrins, et la vie reprend ses droits, la vie les siens. Alors ouvre les mains, ouvre grand, plus grand ton cœur, à l'espoir qui te revient, refais le chemin. Vous connaissez cette musique? C'est la musique du film Il était une fois dans l'Ouest. C'est une musique instrumentale sur laquelle des paroles ont été comme dirait Victor Hugo, déposées. Bon, alors, que dire de cette parole? Moi, ça me fait penser à une vérité qui est donnée par le cœur. Ça me fait penser un peu au cœur antique quand même. Et c'est une parole consolatrice. J'aime bien ce terme parce qu'il n'a pas été employé avant. Voilà, donc ça me permet d'indiquer qu'il y a une grande variété. Alors là, j'ai le regret de vous dire que vous allez pouvoir chanter. Elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente, qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe, par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. C'est remarquable que ces musiques que nous connaissons nous parviennent à dire des textes qui seraient inconvenants dans un autre contexte. Vous voyez, il y a une... Alors comment qualifier cette parole? Pour moi, je pense qu'on peut dire que cette parole, elle est l'expression d'un inconscient. Et on peut exprimer cet inconscient justement parce qu'on ne se rend pas compte de ce que l'on dit. Il y a cette fonction dans le chant choral de libérer la parole sans conscientiser justement les paroles. Elle fait crier dans l'ombre, elle fait pleurer les femmes. Alors unir dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris, comment pourrions-nous prononcer ces phrases-là dans un autre contexte? Donc pour moi, il y a une sorte de... Et énorme succès, comme vous savez. Ce sont des générations qui ont chanté cette musique et qui continuent ce texte et qui continuent à le faire. Donc moi, je pense qu'il faudrait mettre une sorte de parole inconsciente. Là, vous voyez. Oui. Bien sûr, ce sont des paroles qui ont été approuvées, donc plébiscitées. Donc il y a quelque chose dans la conscience collective, oui, certainement. Santa Maria de Guadalupe, Santa Maria, Santa Maria, veillez sur nous, priez pour nous. Ça, c'est le refrain. Le vent est tombé, la mer s'est calmée, le vent est tombé, les pêcheurs vont rentrer. Là, ça impose un petit problème, c'est qu'il y a deux paroles. Il y a la parole du refrain, qui est une parole religieuse, qui est une incantation, et puis la parole des couplets, qui est une parole de la vie ordinaire. Voilà. Alors, vous savez que dans les chorales, il y a des gens divers, qui ne vont jamais à l'église, qui sont athées, qui ont et qui chantent Santa Maria de Guadalupe tous ensemble à la chorale. C'est ça aussi que je trouve très intéressant. Donc, il y a une parole religieuse, hein, et aussi une parole tout à fait ordinaire. Voilà, c'est la vie quotidienne, les pêcheurs qui rentrent. Bon. Je m'arrête dès que l'on retrouve deux fois le même type de parole. Là-bas, Zorba, dans son pays, s'élance, il danse, le sirtaki. Déjà, la joie conduit ses pas, viens, il nous tend les bras. Si tu veux couvrir de roses tout ce que tu vois en gris, si tu es vraiment morose, viens danser le sirtaki. Si tu veux que disparaissent tes soucis et tes tracas, si tu cherches la jeunesse, viens danser avec Zorba, viens danser pour qu'on oublie que le jour se lèvera, etc. Musique de film, là aussi les paroles sont postérieures. Alors, ah là c'est difficile. Là j'ai pas trouvé vraiment un adjectif. Alors il y a toute une philosophie de la vie dans cet extrait. Qui consiste à imposer à la réalité une façon de la vivre qui la transforme par la danse. Bon. Alors, comment qualifier cette parole ? Alors, oui, voilà. Alors, je vais aller dans ce sens-là en disant que c'est une parole folklorique. Et une parole folklorique grecque, chantée par une chorale française. Donc cette ouverture à cette expression folklorique est une des vertus de cette musique. Donc, alors parole folklorique, c'est quand même pas satisfaisant complètement, mais je vois pas trop que mettre d'autre. Et il y a aussi bon, une philosophie hein, nouvelle. À quoi ça sert l'amour si c'est un aller sans retour ? Il n'y a plus que du vide à la place, mais que veux-tu que j'en fasse ? Chaque jour de plus est un jour de trop. Je plie déjà sous le fardeau. Chaque jour de plus est un jour de trop. Est-ce que tu reviendras bientôt ? Pour moi, ça, c'est la parole cathartique. C'est-à-dire que on partage ensemble. Bon, de toute façon, j'ai pas besoin de vous donner d'explication. C'est une parole cathartique. Voilà, hein. Et c'est une fonction qui est très importante dans les chorales, et c'est pour ça que nous allons chanter dans les chorales. C'est pour cette parole-là. C'est l'heure, je vais peut-être conclure. C'est bon ? Alors, dernier exemple, et puis après on conclura. Ils s'en vont de par le monde, troubadours et baladins, et derrière vagabondent leur refrain. Aux quatre horizons du monde, troubadours et baladins sèment l'espoir qui abonde dans leurs mains, battent leurs clous de zigane, etc. Dans cette chorale, qui est une chorale rurale, il y a beaucoup de. Enfin, il y a des manouches qui sont sédentarisées. Et j'entends parfois des opinions assez brutales à leur encontre, ce qui n'empêche pas les mêmes personnes de chanter voilà, les vertus des gens du voyage, du cirque, vous voyez. Donc, cette parole, elle est dans notre imaginaire, c'est-à-dire que c'est Picasso, période bleue, ces clowns, ces battleurs improbables, ils existent dans notre imagination. C'est comme ça que je vois les choses, et ce qui permet à tous les choristes, eh bien, de faire fonctionner cet imaginaire. Ça marche très bien. Donc, une parole, je dirais, imaginaire. La complainte de Pablo Neruda, mais nous n'avons plus le temps. Et c'est fini. Alors, comment conclure ? Tout d'abord, en disant la vertu des chorales scolaires, ou là, chorales d'adultes. Vous voyez la richesse, la diversité de la parole qui est exprimée dans ces ensembles. Alors, comment relier ceci avec le chœur antique ? Eh bien, je dois dire que je m'interroge. Alors, ce sont des chorales qui chantent la plupart du temps sans accompagnement. Donc, il n'y a pas d'orchestre. Le chœur est seul sur scène. Donc, on n'est plus dans cette situation où il y a des solistes, une histoire, et puis un chœur qui fait l'interface entre le spectateur. Le chœur, il est tout. Voilà, il est son propre spectateur. Et l'identification avec l'auditeur, eh bien, elle se fait par le truchement de toutes ces paroles. Et terminons. Comment différencier, comment donner une définition du chœur, une définition de la chorale qui justifie cette sensibilité, ces frontières très marquées? Est-ce qu'on peut les définir? Moi, il ne me viendrait pas l'idée de dire que là, je dirige le chœur qui chante ce programme. On dira chorale. C'est-à-dire que c'est une question de répertoire. C'est-à-dire que dans le sens d'une chorale qu'on va appeler chœur, ça marche bien. En revanche, ce qui est mal supporté, c'est qu'un chœur soit appelé chorale. Que, ouais. Voilà, ça dans ce sens-là, ça ne marche pas. Oui. On dira donc que la chanson française harmonisée, c'est le domaine de la chorale et pas du chœur. Voilà, ça, il semble que ce soit validé par tout le monde, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que le chœur de soliste de Bernard Tétu a pratiqué un répertoire assez large, mais peut-être pas jusqu'à la chanson française. Si, d'accord. Bon, mais toujours en tant que chœur, on dira. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre attention.